C'est une fraude de plus en plus populaire au Canada. On cible toutes les plateformes qui offrent des points de fidélisation pour les voyageurs. Alors, situation assez importante pour déclencher une procédure de sécurité. Et voilà que ça a surpris un peu tout le monde. Je dois parler du prochain chef de la CAQ et du premier ministre du Québec, que ce soit Christine Fréchette ou Bernard Drinville. L'un ou l'autre aura droit à une réserve d'1,3 milliard de dollars, dont 250 millions de dollars cette année. Celui ou celle qui sera élu va pouvoir aussi avoir la possibilité de puiser dans la provision pour éventualité. Normalement, ça, c'est pour les imprévus. Et c'est ce que choisit le ministre des Finances, Éric Girard. Il a expliqué qu'il a réservé ces fonds-là pour leur permettre, suite à leur assermentation, d'avoir un peu de possibilité de jouer avec les sommes et d'y aller à leur main, tiens, disons-le comme ça. Et le maire de Québec, lui, s'est opposé clairement là, au budget du ministre Girard. Il est mécontent, surtout en termes d'infrastructure. Il dit qu'ils avaient des attentes très limitées pour le budget, qu'il espérait tout de même un signal clair pour le logement, l'itinérance et le financement des infrastructures. Il est extrêmement déçu.
Et justement, pour en parler avec nous, on va immédiatement rejoindre notre chroniqueuse politique et ex-conseillère municipale de Vanier-du-Berger, Alicia Despins. Alicia, comment vas-tu?
Ça va bien, merci.
Alicia, est-ce que le maire Marchand a raison de se plaindre des gouvernements? Moi, je t'explique. En premier lieu, j'ai pour mon dire, arrête de quêter Bruno Marchand puis occupe toutes tes infrastructures au lieu de plein d'autres projets. Mais en même temps, je me dis, maudit, il faut qu'il investisse 100 millions dans Saint-Roch pour l'itinérance quand ça y appartient pas.
Ben c'est ça, puis c'est drôle, j'en parle aujourd'hui, je suis à Nicolette dans le congrès, finalement le rassemblement de la nouvelle vague municipale, où je vais parler tantôt du transformation, du rôle des villes. Les villes maintenant, puis j'en ai déjà parlé avec toi, sont rendues responsables de tout ce qui se passe sur leur territoire, mais n'ont pas de capacité financière finalement pour absorber tout ça. Fait que je le comprends, puis Bruno Marchand, il n'est pas le seul maire à demander davantage de financement au gouvernement. Maintenant, ben, je sais pas moi si finalement, est-ce que c'est une bonne réaction de dire bon, on est mécontent. Je pense qu'il y a plusieurs maires qui le sont. Il y a peut-être des petits gains ici et là, mais clairement, c'est pas assez là, pour faire face aux défis qui s'en viennent en infrastructure, en itinérance, en logement. On dirait que c'est un peu aussi un échec de la part de ces grands-mères-là qui se sont exprimées dans les dernières semaines pour avoir une part de gâteau un petit peu plus grande pour faire face à ça. Est-ce qu'ils n'ont pas réussi à faire valoir leurs points, est-ce qu'ils n'ont pas réussi finalement à prendre assez de place dans l'espace public, que ce soit intéressant pour le ministre Girard de mettre ça dans son budget. Puis d'un autre côté, bien, il y a le contexte, hein, c'est un budget pour les prochains mois, on s'en va en campagne électorale, on va avoir un nouveau premier ministre. Ce budget-là, il allait être beige, là, il allait être plate. C'était clair. Cette marge de manœuvre-là, c'était pas un budget pour être créatif puis pour mettre le gouvernement en valeur, alors qu'il va y avoir un nouveau chef, un nouveau premier ministre, une nouvelle première ministre, puis une élection à l'automne.
Alicia, est-ce que, puis je reviens sur ce que tu as dit avec, c'est un peu un échec des maires des grandes villes de ne pas avoir réussi à convaincre le gouvernement. Est-ce que les maires des grandes villes rêvent trop de développement puis gèrent pas assez ce qu'il y a à l'heure actuelle? Donc, serais-tu dû pour un 4-5 ans où on va réparer puis s'assurer que nos services de base aillent bien, puis après ça, on se remettra à rêver?
Bien, oui et non, parce qu'en même temps, c'est un peu ça c'est un peu là qu'on est rendu. Tu sais, les investissements, les grands investissements, les grands projets de société, la culture, le tourisme, le patrimoine, tout ça, ça a quand même pris une place beaucoup moins grande dans les dernières années parce que les villes, il faut qu'ils s'occupent des infrastructures souterraines, il faut qu'ils s'occupent de loger leur monde, il faut qu'ils s'occupent de la hausse des prix du déneigement. Puis, tu sais, il y a des contextes, le contexte géopolitique dans lequel on se trouve en ce moment avec l'Iran, c'est sûr et certain que s'il y a plusieurs opérations de déneigement dans les prochaines semaines, avec le prix de l'essence qui a monté, ça va avoir un impact là, en termes de plusieurs... peut-être même en termes de quelques millions de dollars là, comme impact sur l'ensemble des opérations d'une grande ville comme Québec ou comme Montréal. Donc, c'est je comprends ton point, puis en même temps, j'ai l'impression que les villes, c'est ça qu'ils font déjà, juste s'occuper de leurs affaires. Je vous rappelle Catherine Fournier qui parlait de son feu de circulation à 1 million de dollars. On est rendu là en ce moment dans les coûts. On est rendu à un point où tout est à refaire. Fait que j'ai l'impression que les villes sont quand même concentrées sur l'essentiel. Maintenant, Quand on parle d'itinérance, bien ça, j'ai l'impression que c'est un enjeu. Ça se passe sur le territoire des villes. L'impact se vit par les villes. Fait que c'est elles qui doivent s'occuper de ça. Puis malheureusement, le gouvernement du Québec n'est pas proactif à cet égard-là. Il ne répond pas aux attentes des maires pour investir les montants nécessaires pour cet enjeu-là.
Mais on dirait que tout le monde manque d'argent. Donc, il y a des choix à faire. Puis en même temps, Alicia, on va te poser la question parce que tu as été quand même longtemps en train de gérer des choses dans une ville, soit celle de Québec. Est-ce qu'on ne devrait pas redéfinir les tâches de chacun des paliers politiques, municipal, provincial, fédéral, avec tout ce qui a changé, le temps qui a passé? Ça se peut-tu que ce soit ça le problème aussi? C'est pour ça qu'on se renvoie tout le temps la balle?
C'est clair, il faut absolument redéfinir les rôles, surtout le rôle des municipalités, parce que dans la réalité, ça a explosé. Le nombre de responsabilités des villes ont explosé. Puis en même temps, bien, leur rôle, comme c'est écrit dans la loi, celui-là, il n'a pas changé. Il y a eu des petits gains, là, tu sais, le statut de capitale nationale pour Québec, etc. Bon, des gains en termes de points de TVQ, puis de retour auprès des municipalités pour le financement, mais c'est très marginal, puis ça limite les villes dans leur capacité. Ils sont très contraintes là-dedans. Moi, je veux juste rappeler que dans les choix à faire, quand on parle d'argent, on parle du même argent. On parle de l'argent des villes, de l'argent des gouvernements. La différence entre les villes puis le gouvernement, c'est que le gouvernement, lui, peut faire des déficits. Puis là, on apprend aujourd'hui ou hier, avec le budget, là, hier, que le gouvernement prévoit un déficit moins grand que prévu. Les villes, de leur côté, eux autres, ils n'ont pas le droit de faire de déficit. Fait que s'il y a une année, on jugerait qu'il faudrait investir davantage d'argent, bien, c'est pas possible. L'argent rentre via les taxes foncières, l'argent sort pour investir, puis à la fin de l'année, les villes sont légalement obligées d'arriver au moins à zéro, sinon avec un surplus.
Pour rappel, on parle avec Alicia Despins, chroniqueuse politique municipale à Boulevard 102.1, l'émission On en jase, et ex-conseillère municipale de Vanier-du-Berger. Alicia, je te fais écouter un extrait de Sylvain Junot en entrevue lundi avec nous concernant le projet de tramway. C'est la chicane de la semaine. C'est Sylvain Junot, le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures.
Oh, oh, oh. Il dit qu'il ne chicane pas, lui, M. Junot.
Oui, il n'est pas en guerre contre
il
Bruno
pas en
Marchand.
Guerre, il est pas en
Mais écoute, je te laisse écouter l'extrait, Alicia, puis on se reparle voir s'il est en guerre avec notre maire à Québec.
Maintenant qu'on a dit ça, ben, tout grand projet de cette envergure, on parle quand même de plusieurs milliards, là, doit suivre les règles de l'art. Dans les règles de l'art, ben, les gestes irréversibles, ben, on les pose pas au début, on les pose quand on est sûr d'avoir tout bien attaché. Et dans ce cas-ci, ben, le financement, à moins que quelqu'un me sorte des documents, là, j'ai pas d'assurance de grand-chose. On a une espèce d'esquisse, mais un montant de 7, quelques milliards qui date de, un estimé qui date d'il y a 2 ans, un gouvernement fédéral qui parlait de 1,4 milliard, qui représente donc pas 40%, pas d'engagement à aller plus haut, mais des espèces de peut-être que.
Éric Girard nous l'a confirmé en entrevue en début d'émission. C'est vrai que le financement du fédéral n'est pas confirmé. C'est vrai que le budget de 7,6 milliards, c'est pas confirmé. Ça va être juste confirmé une fois que CDPQ Infra va avoir déposé le plan de travail complet. Devant ces deux faits, Alicia, est-ce que Sylvain Junot a raison de dire « Coupez donc pas les arbres tout de suite au cas où que ça n'arrive pas, le tramway? »
Ben, puis à ça, Bruno Marchand répond, ben il faut qu'on arrête de tourner en rond puis de tout le temps prendre du retard
en
dans
effet.
Ce projet-là qui a déjà énormément de retard. Mais c'est vrai que c'est un message qui est contradictoire, là. Donc, le gouvernement du Québec considère actuellement que le tramway est plutôt en phase de planification, en même temps qu'il continue de verser quand même des sommes. Moi, ce qui m'a fascinée dans tout ça, c'est la réponse de Bruno Marchand. Parce que là, je trouve que c'est un peu tard quand même pour M. Junot là, de venir s'opposer à la Coupe d'Arles, de venir s'opposer un peu au projet de tramway. On dirait que dans le processus, là, il est peut-être tard un peu pour
ouais,
ça.
Oui, mais là, il va y avoir une grande marche le 28 mars pour sauver les arbres organisés par les anti-tramway. Fait qu'on en est là.
Ouais. On en est là. Mais Bruno Marchand répond, il dit, il traite finalement Sylvain Junot d'apôtre de l'inertie. Moi, je trouve que c'est une occasion manquée pour Bruno Marchand de profiter de l'occasion pour continuer de communiquer. On le dit, on continue de le dire, il faut communiquer pourquoi c'est important, pourquoi on est rendu à ce moment-ci, de s'élever finalement dans tout ça. Finalement, j'ai l'impression qu'il est tombé dans le piège de contre-attaquer. Puis en répliquant de cette façon-là, Bruno Marchand met l'attention finalement sur ce conflit-là qui est de toute évidence très personnelle entre les deux mères. C'est une distraction là, dans tout le reste.
Ils disent que non.
Bruno Marchand, ouais, c'est ça. Mais Bruno Marchand, en ce moment, il est en Alberta pour continuer de vendre le projet puis montrer que c'est possible, etc. Puis, à quelques milliers de kilomètres de là, ben, il se chicane avec son collègue sur la coupe d'arbre.
Oh, dans le public, dans le public, par lettre qu'il envoie aux médias. T'sais. Puis en plus, il est à plusieurs kilomètres. Quand samedi, il y aura congestion parce qu'on aura de nouvelles signalisations dans la ville de Québec. Alicia, je suis désolée de te poser la question. Sous l'air, Régis Labeaume, est-ce que déjà le projet de tramway, c'était le fameux projet de la napkin, puis on voit encore que c'est pas ficelé comme projet?
Non, pas du tout. Ce projet-là, il est ficelé. Toutes les études sont là, le démontrent, mais le contexte est très difficile. Il faut des fins stratèges, des fins politiciens pour être capable là, de mieux communiquer le projet puis de montrer que malgré tous les signaux envoyés par les collègues, les maires de Saint-Augustin, par exemple, puis le gouvernement du Québec, on garde le cap puis que ça avance. Là, des distractions comme celle-là, je ne sais pas combien on peut en avoir à Québec avant que les gens commencent à reperdre espoir en projet. Là. Donc, c'est pas évident. Je trouve que c'est contre-productif. Puis je pense que finalement, les citoyens, ils n'aiment pas beaucoup ça. Là, je ne sais pas si j'ai encore 30 secondes, mais cette mission-là du maire de Québec en Alberta, elle est importante, elle a des objectifs.
Hey, mais moi, je vais te poser la question, par exemple, le timing de la mission.
Le timing, j'y allais exactement.
Le timing, parce que là, les travaux commencent samedi, les responsables des communications sont en Alberta, le budget provincial, le maire est en Alberta. En tout cas,
tu m'enlèves les mots de la bouche. Le timing, je ne sais pas, cette semaine-là, on dirait qu'elle n'aurait pas pu être mal choisie. L'annonce lundi des enjeux, tu sais, des changements de la circulation pour les travaux du tramway. Mardi, l'annonce de la coupe d'arbre. Le budget provincial.
Ben c'est ça. Puis là, on a parlé avec un restaurateur sur René Lévesque hier qui dit, ben, je sais pas, là, quand tu m'as appelé pour me dire « Ouais, apparemment que le RTC est détourné, je rappelle la ville. » Mais là, ils m'ont dit « René Lévesque sera pas fermé. » Fait que là, on sait pas. Il va-tu être fermé? Seras-tu pas fermé? Hey, qu'est-ce qui va arriver? On
est jeudi. Vendredi, samedi. C'est samedi que ça commence.
Ah oui. Fait que ça fait pas de sens ça, comme gestion de projet, là.
Puis on a déjà parlé, mais tout ça peut pas se faire après les faits. Monsieur Marchand ne peut pas revenir, puis après ça, essayer de remettre la pâte à main dans le pot, puis dire, ben voici, je vous l'explique, ça va bien se passer. Un peu de prévisibilité, finalement, pour les citoyens puis les commerçants. Il faut que ça se fasse avant tout ça. Donc, partir cette semaine, effectivement, c'est un drôle de moment pour toi.
Alicia Despins, toujours un bonheur de te parler une fois par semaine. T'es notre chroniqueuse municipale en politique municipale et on t'apprécie beaucoup. Salut, bonne fin de journée.
À Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Jusqu'à 14h, on en jase.
Timing is everything.
Ouais, puis tu sais, je le sais. Je sais qu'elle dit que c'est ficelé, puis que c'est pas un projet de napkin. Colin, j'y crois pas encore.
Ouais,
puis
ben.
Puis honnêtement, Alicia a jamais la langue de bois. Elle nous répond toujours les bonnes affaires. Ben en fait, dans le sens, elle répond. C'est déjà bien parti.
En effet. Mais tu y crois pas parce que le bureau de projet a pas fait sa job. Ils ont jamais été capables de nous prouver que ce projet-là était bien en selle.
Il y a le contenu, puis il y a le contenant aussi. Si Jeff, je te parle de quelque chose, tu commences à te choquer. Au lieu de, quelque chose que
tu n'as
rien à te reprocher, mais tu réponds avec une certaine amertume, avec une certaine arrogance. Tu m'allumes des lumières. Puis ça se peut que tu sois vraiment une bonne personne, puis tu ne l'aies pas fait, mais si tu réagis de même, le contenant compte aussi.
Ben oui,
pas juste le contenu, puis Bruno Marchand, la façon dont il réagit. Je comprends qu'il est exaspéré, mais s'il n'y a rien à se reprocher, pourquoi il réagit comme ça?
Oui, puis c'est le projet de la chicane, parce qu'il y a tellement eu... peut-être d'hésitation dans le dossier, de changement, de porteur de dossier, de changement à l'intérieur même du projet. On était à Charlebourg, on était à la Beauport, on revenait à Charlebourg. T'sais. Donc, à un moment donné, toutes ces tractations-là font en sorte que le monde ne croit pas.
Ben oui, puis il est où le pilote dans l'avion?
C'est ça, le monde.
C'est une expression que j'aime
beaucoup. Ben oui, mais le monde ne croit pas au sérieux de la démarche. Puis tu as raison quand tu parles de l'attitude du maire Marchand, qui est toujours aigri que le projet du tramway. Tu veux me vendre de quoi, là? Attends, mettons, tu veux me vendre un café, là. Hey, Jeff, prends mon café. Café, une merde. Ben, je vais te dire, garde-le, ton café.
Ben oui, mais...
Mais si tu me dis, Jeff, gars, dans la tasse de café qu'il y a là, là, c'est le meilleur café au monde.
Je viens de moudre les grains.
Puis tu sais quoi, je le sais.
Tu sais, le café du dimanche,
ben,
là, dans ta
exactement.
Chambre,
exactement.
En plein hiver avec une tempête, là.
Fait que là, tu vas l'acheter, c'est ça le problème. Ouais. C'est qu'on essaie de nous passer le tramway en étant fâché. Ça marche pas.
Je comprends pas, puis c'est ça le rôle d'un politicien. C'est bien plate, là.
Ben
il y a
oui.
toujours un côté positif à être politicien, mais il y en a aussi un négatif, puis c'est de répéter, puis de garder son calme.
Exactement, puis de garder le cap, et c'est ce qui n'a pas été fait dans ce dossier-là. Donc, ça va être à suivre. Tu sais, on fait juste regarder, là, on a mis notre chum Mathias sur le projet, là, parce que hier, Marc-Antoine Munoz,
oui.
de la Scala,
oui.
nous a dit, hey,
un
savez-vous
restaurateur.
Quoi? Moi, je me suis fait dire dans une réunion de commerçants que l'arrêt colline parlementaire, elle sera pas là. Stéphane Lachance nous a dit la même chose en ondes à Marceau le matin.
Mais nous, on
les
a
deux
l'impression
sont pas
encore
parlé.
Là, là.
Mathias m'a montré le plan. Tantôt, il dit « Check, est encore sur le plan, Jeff. » Donc là, il va faire des demandes d'accès à l'information. Imagine qu'on tombe là-dessus, que finalement, il n'est pas là, l'arrêt. On va dire « Regardez les menteurs avec leur projet. » Fait que tu peux pas avoir d'adhésion.
Ou projet non ficelé, ou tu sais...
Ben exactement, projet napkin. Je reviens ouais. à ta... T'as entièrement raison. Je reviens à ton... Je reviens justement
à cette image-là.
Ouais, c'est ça. À ton qualificatif. Voici le mot que je cherchais. On va aller rejoindre quelqu'un qui est pas souvent fâché, mais qui nous fait réfléchir. Animateur au 99.5 Montréal, du lundi au jeudi de 18h à 19h. Et également, la fin de semaine de 8h à 10h en compagnie de Jacinthe-Ève Harel. Rémi Villemur, comment vas-tu?
Je suis jamais fâché. C'est pas souvent, je suis jamais fâché.
C'est
non,
ça, hein,
ça,
exactement.
Je crois pas, c'est louche.
J'aime ça. C'est le good vibes only, j'aime bien ça. Rémi, tu veux nous parler d'un événement que là, certaines personnes veulent annuler. Pourquoi?
Oui, bien ça se passe le 26 mars. C'est organisé à l'Université Laval. Et c'est un événement dans lequel on organise un panel. Un panel qui est constitué par trois personnes que vous connaissez bien à Québec. Alex Boissonneau, député du Parti québécois dans Arthabaska. Benjamin Tremblay, qui est le créateur de la chaîne 7 jours sur Terre, qui mm-hmm. est, je pense, ne pas me tromper en disant, la chaîne québécoise avec le plus d'abonnés. Peut-être pas loin de celle de Victoria Charlton, mais c'est un exploit
wow.
que ce gars-là, de mon âge à peu près, ait réussi à faire ça. Et Étienne-Alexandre Beauregard, qui est... anciennement à la CAQ, désormais chercheur à l'Institut Cardus. Donc, c'est un panel.
Et juste pour dire, Étienne-Alexandre Beauregard, que vous entendez sur nos ondes à l'émission On en jase régulièrement. Et mardi prochain, il sera là pour nous parler du sous-financement des organismes communautaires, parce que ça va être la semaine. Le communautaire à bout, et il a fait une étude là-dessus.
Ouais, ah ben oui, c'est vrai qu'il vient souvent à votre émission. Et là, il y a les féministes en mouvement de l'Université Laval qui dénoncent la tenue de la conférence qui est organisée par le Parti québécois et de l'Université Laval, parce que là, il y a un comité du Parti québécois à l'Université Laval. Et là, on nous dit quoi? On nous dit que ce sont des panélistes qui ont tenu des discours traditionnalistes. Traditionnalistes, imaginez-vous.
Okay.
Discriminatoires, haineux. Et là, on n'acceptera pas ça sur le campus. Moi, j'ai vu ça passer, puis je me suis dit, « Hey, on vit plus à cette époque-là. C'est terminé. Ça, c'est tellement 2019-2020, ça. Ouais. On est passé à autre chose, là.
Mais Pascal,
maintenant, on est capable... »
Pascal, Étienne, Alexandre, il y a des propos haineux quand il vient à notre micro?
Non.
OK. Non, ça, j'ai posé la question. Que... Pascal, c'est une femme?
T'as bien fait. Puis je sais que Pascal est membre de cette organisation-là.
Non, puis...
À partir des rumeurs. Non, mais haineux, discours haineux, discours haineux, ça, on a entendu ça souvent, puis on s'est finalement rendu compte que ça voulait dire, malheureusement, parce que ce mot-là a quand même un sens, haineux, mais souvent, ça veut juste dire « je suis pas d'accord avec quelqu'un », fait qu'on va dire que c'est un discours haineux, si on l'a vu à l'œuvre. Mais là, discours traditionnaliste, moi, je salue quand même l'audace de ces féministes en mouvement.
Ça sort de où, ce mot-là, Rémi? Explique-moi, là.
Ben, je sais pas, c'est peut-être parce qu'on a des gens qui sont parmi le panel qui sont un peu conservateurs, c'est-à-dire qu'ils le voient pas dans
ouais,
la modernité.
Attends, on va demander à Pascal. Pascal est une femme traditionnaliste. Pascal, tu utilises ça tous les jours?
Arrêtez, il y a du monde qui va y croire, hein? Vous savez, c'est quoi la radio, là?
Non, mais c'est incroyable, cette histoire-là. Et là, on nous invite donc à envoyer des courriels pour dénoncer. Et là, il y a comme 5 ou 6 adresses courriels différentes. On veut vraiment être sûr que ça se rende et que ça se signale. Et je vous disais donc, il y a quelques secondes, j'ai l'impression que ça, c'est du passé. Moi, je pensais qu'on était passé à autre chose. Je pensais qu'on était prêt à s'asseoir avec des gens, que des fois, on en donnait une à l'adversaire, entre guillemets. Bon, ben regarde, voici un lancement très à gauche, avec du monde très à gauche qui passe une soirée ensemble. C'est quoi le problème, en fait? C'est quoi le problème? Voici un événement où il y a plus de gens qui sont marqués à droite, bah, c'est quoi le problème? Idéalement, on met toutes sortes de gens sur les panels, mais moi, pour avoir un podcast et une émission de radio et être marqué à droite, je peux vous dire une chose, c'est un défi de les avoir, souvent les gens qui sont marqués à gauche. Donc, ça, les gens qui ne sont pas dans ce milieu-là doivent le savoir. Des fois, quand vous avez un panel de gens à droite, pas parce qu'il y a quelqu'un qui a dit on va juste inviter du monde à droite, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui refusent la conversation, qui refusent de se mêler. Moi, on me répond des fois, ma gang ne sera pas d'accord. Ma gang ne sera pas d'accord parce qu'il y a une pression sociale qui s'accentue lorsque vous traînez avec certaines personnes. Donc, ce n'est pas des accidents, là, les panels, des
Ils ont
fois, quand
peur de
c'est
se faire
organisé comme ça.
étiqueter à droite au sein de leur propre groupe parce qu'ils participent à des panels où il y a une pluralité d'opinions ou ils veulent pas être vus en leur compagnie ou ils accusent qu'ils seront mal cités.
Ben, c'est toutes ces choses-là. Après, moi, ça n'engage que moi et mon expérience. Moi,
Ton
dans mon
vécu.
expérience, j'ai eu à faire avec des gens plus à gauche que je voulais inviter, avec qui je voulais discuter. Et souvent, on me disait, je veux pas, t'sais, être vu. Moi, je t'aime bien, mais t'sais, moi, je vais devoir m'expliquer. Bon, alors, moi, j'ai jamais eu besoin de m'expliquer quand je me faisais inviter par des gens à gauche. Peut-être parce qu'il y a moins de gens qui estiment que je commets une faute grave lorsque je m'assois avec quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Mais revenons à ce panel-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction. Parce que si vous allez dans les commentaires, c'est la page des féministes en mouvement de l'Université Laval qui publie ça. Dans les commentaires, généralement, on devrait imaginer que c'est favorable au message parce que c'est sur une page avec des membres de la page. Oh, boy. Allez faire un tour. Je ne sais pas s'il y a un commentaire positif et favorable à cette démarche de censure pour 10 commentaires de gens qui disent ça va faire, là. On a déjà joué dans ce film-là, ça donne rien, il faut converser pour avancer et c'est surtout pas
Est-ce
dangereux
que ça leur
d'inviter du
cause
monde qui ne pense pas comme
problème?
nous.
Est-ce que ça leur cause problème parce que c'est des hommes qui font le panel et qu'il n'y a aucune femme?
C'est pas ce qui semble être dénoncé, là, pour être tout à fait
Parce que
honnête. Après,
ça
on
aurait pu être
peut.
réfléchi, tu sais. Ça,
Ouais.
admettons, tu veux pas mettre de l'huile sur le feu ou tu veux vraiment être inclusif ou tu veux vraiment, exposer le plus possible toutes les vécus. Et bon, on peut pas faire du genré en 2026, mais le fait d'avoir une femme autour du panel, ça aurait pu peut-être calmer les ardeurs, non?
Oui, peut-être, mais je vois pas. C'est bizarre parce que c'est une bonne question que tu me poses, Pascal, parce que ce sont des féministes en mouvement. On aurait pensé effectivement que leur préoccupation numéro un, c'est la présence d'une femme, mais c'est pas ça. On prend par exemple Alex Bossonneau, on dit qu'il est, et je cite l'affiche là, connu pour ses tendances de droite, ses discours urgentistes promouvant les concepts de capacité
Seigneur,
d'accueil et d'immigration incontrôlée.
connais pas le même Alex
je te
Boissonneau que
dirais
moi, là.
que beaucoup d'animateurs diraient complètement le contraire sur cet homme-là.
À Québec, oui,
Non,
je
c'est
sais, mais
ça.
tu sais. Non, mais la capacité d'intégration, ce n'est pas un concept urgentiste. Si vous avez une pièce dans un 4,5, si vous avez un 4,5, vous ne pouvez pas faire rentrer 1 million de personnes. Vous pouvez en faire rentrer un certain nombre. Si vous en faites trop rentrer, les gens vont tomber par la fenêtre et tomber par le balcon qui va fendre sous le poids des gens. Ça, c'est ça une capacité d'accueil. C'est la capacité de faire rentrer un certain nombre de personnes sur un certain territoire qui est muni de certaines institutions pour les accueillir. Benjamin Tremblay, on dit qu'il est préoccupé par les abus des immigrants, tant par rapport à la bienveillance des Québécois qu'au laxisme législatif canadien. Je précise quand même que Benjamin Tremblay, le 99% de son travail concerne la géopolitique, là. Donc, on est peut-être allé chercher une affaire qu'il a dit à un moment donné et on dépeint un personnage en fonction de ça. Étienne-Alexandre Beauregard, c'est un ambassadeur, je ne savais même pas, et chercheur pour l'Institut Cardus, un think tank chrétien qui se positionne notamment contre l'avortement. Donc, Étienne-Alexandre, un ami à moi, il est pour l'avortement. On n'a jamais eu cette discussion-là autour de la table. C'est pas du tout quelqu'un qui s'axe dans ce type de
Non.
conservatisme-là.
Exactement. Le point positif là-dedans, Rémi, c'est qu'il y a 10 commentaires positifs pour un commentaire de censure et que les gens veulent le dialogue. Ça me réconcilie avec les étudiants de l'Université Laval.
Oui, puis pas juste les étudiants, mais le monde en
Ben
général. Et
oui.
c'est précisément ce que tu viens de dire, Jeff, c'est-à-dire qu'on dit, on est pour le dialogue. C'est pas qu'on dit, par exemple, ah, gang d'extrême gauche, gang de
Non.
ci, gang. Il y en a des commentaires comme ça, en toute franchise. Mais ce que je remarque le plus, ce sont des gens qui disent, arrêtez, une conversation, ça n'a jamais tué personne. On est capable, ça va bien aller. Ajoutons un petit arc-en-ciel si ça vous tente.
Rémi, deuxième sujet, la guerre en Iran, ça fait la manchette à chaque jour. Là, présentement, le détroit d'Ormuz est bloqué. Il y a peut-être des pays qui vont venir aider les Américains, Mais là, si on est autant dans de beaux draps avec cette guerre-là, c'est parce qu'on a les États-Unis qui ont décidé de bouger seuls, puis on a une Amérique qui ne se tient plus du tout, là.
Non, pour gagner une guerre, là, c'est vieux comme le monde, puis l'une des meilleures leçons de ça, c'est la guerre du Vietnam, si on prend l'exemple américain. Ça prend une nation unie et soudée derrière un objectif commun. Et l'Amérique est divisée, d'accord? Pas depuis Trump. Trump a pris le pouvoir en 2016 et en 2024 en étant capable d'aller chercher une majorité de gens qui pensaient comme lui, mais l'Amérique était tout autant divisée avec un Joe Biden, par exemple, et vers la fin du mandat de Barack Obama. C'est difficile pour les Américains de se lancer dans une guerre. Vous avez une majorité de personnes qui disent « Non, ça ne nous tente pas. Non, nous, on est encore traumatisés par l'Irak, par l'Afghanistan, par des soldats qu'on a envoyés là-bas pour rien, parce que beaucoup sont revenus dans des bas des bagues. Et finalement, qu'est-ce que ça a changé en Irak? Qu'est-ce que ça a changé en Afghanistan? Les talibans ont repris le pouvoir. » Donc, tu ne peux pas gagner une guerre, surtout pas face à une civilisation comme l'Iran. L'Iran, elle, a la capacité de se tenir beaucoup plus soudée que l'Amérique en ce moment, qui, à certains égards, est décadente, ne s'entend plus sur des codes de conduite et sur certaines valeurs et certains principes. Donc, moi, je vois cette guerre-là s'en aller directement dans un mur. Les Américains vont sortir progressivement de ça, vont devoir annoncer aux Israéliens que ce n'est pas leur guerre, que c'est la leur, à eux, les Israéliens, et qu'ils n'ont pas d'intérêt à faire ça, et surtout qu'ils n'ont pas d'acceptabilité sociale. C'est pas possible de gagner une guerre quand vous êtes aussi divisé à l'intérieur. Quand vous avez, par exemple...
200 milliards de dollars qu'on a dit que ça pourrait coûter à terme. C'est clair que les Américains veulent pas.
Mais dans les années 70, il y a un rescapé des goulags qui s'appelait Solzhenitsyn, qui s'était réfugié au Vermont et qui avait fait un discours à l'université Harvard. Donc, les étudiants de Harvard s'attendaient à un discours anti-URSS. Et lui, c'est un rescapé des goulags qui est venu dire aux Américains, dans les années 70... Le problème avec vous, c'est que vous ne formez plus une société. Si vous manquez d'électricité pendant 24 heures, vous allez commencer à péter des voitures et à voler des magasins et à aller voler chez le voisin, alors que chez nous, on est capable d'en manquer pendant un mois et on est capable de s'entraider parce qu'on forme un tout uni. C'est un visionnaire, cet homme-là, parce que 50 ans plus tard, je ne peux pas imaginer, dans un scénario même optimiste, que les États-Unis ont réglé ce problème-là.
Je pense qu'il joue aussi avec le sentiment de sécurité des Américains qui est hautement ébranlé depuis quelques années. T'sais, on a vu même le peuple se fragmenter au sein même des États, au sein même d'une municipalité. Les gens s'en prennent aux autres. Puis là, de savoir par le secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth, qu'il n'y a même pas de plan pour finir la guerre, ça les insécurise, c'est sûr. Déjà, dans leur propre municipalité, la ville, ils sont en train de s'entre-déchirer. Tu vas y aller par État, tu vas y aller par pays, tu vas y aller avec le Canada puis ses alliés habituels. Puis après ça, tu t'en vas dans le monde avec aucun plan fixe. Peut-être qu'ils commencent à se rendre compte de l'ego et de l'impulsivité de leur chef d'État, là, de Donald Trump, tout simplement.
Ben oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs niveaux de division. Tu as la population qui est divisée, puis tu as aussi les plus proches de Donald Trump. Tu as le numéro un du counter-terrorism, de l'antiterrorisme qui démissionne. Dans le Wall Street Journal, la fin de semaine dernière, samedi, c'était démontrer là, dans le détail combien Donald Trump s'était bâti un petit entourage avant de déclencher la guerre le 28 février, puis il y avait bien peu de gens autour de lui dans les deuxièmes niveaux de proximité qui étaient informés de ça, puis qui étaient surtout d'accord avec ça. Donc, vous avez une base qui est MAGA est divisée en deux, vous avez une population qui est divisée en deux, puis vous pensez vraiment que vous allez gagner la guerre contre une civilisation perse en plus de ça? Mm-hmm. Impossible.
Rémi Villemur, c'est toujours un bonheur de te jaser. On parle avec toi les mardis et jeudis à l'émission On en jase aux alentours de 13h10. Merci beaucoup. Je te souhaite un bon week-end et du bon temps sur les ondes du 99.5 Montréal.
Bye-bye à vous deux. Toujours un plaisir.
Salut Rémi. Rémi Villemur, chroniqueur pour nous à l'émission On en jase et animateur au 99.5 Montréal.
C'est capoté comment... Tu sais, je vais pas me péter bretelles.
Oui, oui.
Mais je vais quand même taper sur l'épaule sur une chose.
Vas-y donc.
Donald Trump, quand il est revenu dans son mandat, je disais qu'il était revanchard cette fois-ci puis que... il y avait un mauvais leadership.
Ouais.
Tu vois à quel point le leadership, c'est important, c'est capoté.
Ben, vraiment.
Il a rallié qui, finalement? Il rallie personne. Il se rallie lui-même.
En effet.
Quand il y avait des gens derrière lui, c'était souvent par peur, par bénéfice pécuniaire.
Non, t'as entièrement
pour
raison.
Pour l'argent, là.
Non, t'as entièrement raison. C'est un mandat très...
J'espère qu'on va apprendre de ça.
Oui, clairement.
Le leadership en politique, il est extrêmement important.
Oui, clairement. En même temps, les gens voulaient cette coupure-là avec ce qu'ils avaient vécu, mais la coupure est pire que ce qu'ils avaient avant. Après cette courte pause, dans un instant, Boulevard 101, c'est Lanny Dufour, chroniqueuse économique pour nous, qui vient s'installer. On a parlé du budget, Pascal, les finances publiques, les infrastructures, l'itinérance, la Ville de Québec. Ouais, tu as le temps de parler un peu d'économie. Qu'est-ce que t'en penses?
Je pense que ça va de soi, en plus.
Exactement. C'est ce qu'on fait dans un instant, Boulevard 101, à l'émission Dans Jase.